c'est magnifique. Comme le piège à tigre inoxydable et peint en verre. Avec la clé numéro 3543 bis qui permet de le remonter sans effort. Ce qui permet de prendre sa journée 20, 21, tigre 22 sans se fatiguer davantage.
Merveilleux.
C'était pour un... Il y a le chalet pour fouine, les trois pièces. Il y a le dortoir seulement chez le salon. Il y a les plus belles choses. C'est la canne pour voyageurs en liquide qui permet d'absorber discrètement le contenu de son verre et de le recracher dans la rainure du plancher parce que ce sont des gens très polis. Ils font remarquer qu'il ne faut pas revider, qu'il ne faut pas vider le liquide qui absorbe la canne n'importe où, mais de préférence dans une rainure du plancher. Oui. Oh, il y a le paletot pour chien. Le paletot pour chien avec poche-poitrine et colvitier. La botte pour chien à trois boutons. La même pour 25 centimes de moins.
Chapeau
deux boutons pour passer.
Chapeau pour chasseur ou pêcheur avec les feuilles.
Elle se situe en 1921-1922.
C'est bon, c'est pour le confort de l'explorateur parce que le catalogue de la manufacture, ça contient fils de clients. L'explorateur est bureaucrate. Alors il y a 6 pages des plumes et 6 pages de casque colonne.
Généreux, tyrannique, tumultueux.
Ils sont obsédés par la question des courants d'air qui rafraîchissent le crâne. Ils sont des clients chauds. Il faut refroidir un peu.
Kafka rencontre Milena deux ou trois fois seulement et tout le reste a été épistolaire. Il en est resté ce paquet des lettres à Milena que une mixture de tourments, de persécutions, de mea culpa, de craintes, de poids d'un de félicité, d'adoration et de panique. Mais l'humour n'en est pas absent, ni l'enjouement. Et l'aventure de Kafka et de Milena finit fatalement dans une impasse, comme tout finissait avec Kafka. Elle finit dans l'impasse Kafka, qui est bien connu tout le topographe. Et il y a une lettre de Kafka qui résume très bien toute l'histoire parce qu'elle embrasse tout dans une parabole. C'est la lettre clé de l'aventure, celle dans laquelle il explique que j'étais un animal des bois qui vivait presque jamais dans la forêt. Un jour, je vis au grand soleil la chose la plus merveilleuse que je n'ai jamais aperçue, c'était Milena. Je me suis levé, je me suis approché, craintif au sein de cette liberté nouvelle, etc., que tu étais bonne. Je me suis senti heureux, fier, libre, puissant chez moi, tellement chez moi, cette sensation qu'il n'avait jamais eue, toujours tellement chez moi, mais au fond, je n'étais que la bête, je n'appartenais qu'à la forêt. Je me suis souvenu de ce que j'étais, je n'ai plus lu d'illusions dans tes yeux, j'ai eu peur, comme dans les rêves, où l'on craint de se conduire comme chez soi dans un endroit où on se trouve en intrus. Cette peur, je l'ai éprouvée dans la réalité, j'ai dû retourner à mes ténèbres, et alors ce mot qui éclaire tout, je ne supportais pas le soleil. Cette impasse s'appelle aussi dans Kafka le terrier. Et il en a fait une nouvelle.
Parce que le terrier, c'est l'histoire de quelqu'un qui creuse une galerie et qui brusquement rencontre un mur.
C'est ça. Et qui est toujours inquiété par une espèce de bruit qu'il entend de l'autre côté de la cloison et qui ne voit pas d'autre remède que de continuer à fouir, etc. Or, il se voit lui-même comme cette taupe du terrier et il se décrit ainsi dans ses rapports avec Milena. Dans une lettre à Milena, il lui dit textuellement « J'avais creusé avec trop de joie les trois chemins qui mènent à toi du seuil de mon sombre logis. J'avais jeté petit à petit trop de choses de moi, tout ce que je suis, dans ce couloir qui mène à toi, peut-être, et la folie dit certainement, ce couloir qui mène à toi peut-être et qui soudain, au lieu de déboucher sur toi, se heurte à l'implacable roc de ton « S'il te plaît, ne pars pas ». Si bien que je dois rebrousser chemin, refaire lentement en sens inverse, la route si rapidement creusée et combler lentement tout ce boyau. Cela fait un peu mal, mais ce n'est peut-être pas très grave, puisque je peux en parler aussi prolixement. au bout du compte, vieille taupe que je suis, et il est tout là-dedans, je perce déjà de nouvelles galeries.
Voilà un des thèmes qui sont à la fois dans son œuvre et dans ses maîtres à Vienne.
Vous avez dit tout à l'heure que cette correspondance s'étendait sur deux années. Combien d'heures approximativement il semble qu'on pourrait les compter, ont-ils passé ensemble?
Ah oui, ils ont peut-être passé au maximum 12 heures ensemble, peut-être 24. Ils sont vus 2-3 fois en se rencontrant dans une ville où chacun est arrivé dans le train. Il y a eu 2 vraies rencontres, peut-être 3, probablement 3. C'est à peu près tout. Par conséquent, c'est surtout de l'amour. L'amour de tête.
Oui.
Il y a aussi le reste, mais il y a beaucoup d'amour de tête. Tout à fait une chose littéraire. De la part de Milena, peut-être moins.
En tout cas,
infiniment vécu. Oui. Oui.
Thank you.
retrouve dans le château des épisodes qui peuvent avoir été inspirés par son aventure avec Milena. Mais avec Kafka, je pense que la question chronologie des œuvres et situation des épîtres à Milena dans cette chronologie n'importe pas beaucoup. Parce que Kafka est toujours tout entier à tout moment, et dans ses lettres à Milena, et dans son œuvre, je crois qu'elle est tout entière déjà tout le temps. Elle est tout le temps là. Il y a un fond Kafka qui est une chose essentielle, qui est une chose immuable. Le nœud gordien, qui toute situation chez Kafka, c'est un nœud gordien. Et toujours la solitude et le nœud gordien. Et ça, ça existe. Peut-être pas depuis sa naissance, mais enfin il y avait les conditions pour ça. En tout cas, depuis son enfance, depuis son histoire avec son père, le verdict et tout ne fait que répéter ça avec des variantes, avec des enrichissements, avec des approfondissements. Mais enfin, je crois qu'il est toujours tout entier là. D'ailleurs, comme tout artiste, je crois justement, s'il est très, tellement grand, Kafka, c'est parce que c'est sa personnalité qui impose sa forme à sa vie. Il est. N'est-ce pas, les vrais grands artistes sont dévorés par le style. Et leur style déteint sur l'entourage. Il n'y a pas, on ne peut pas faire de distinction presque entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une espèce de malaxage de la réalité par les sucres personnels du bonhomme et qui font que la frontière est très nuageuse entre lui et l'extérieur, et qui font que tout le temps, il se trouve au milieu d'un bain dans lequel il est lui et l'entourage ressemble à ça, et puis ça va depuis le moment où il est lui jusqu'au moment où il ne l'est plus, c'est-à-dire depuis le moment où il a sa vocation, où il a son talent, jusqu'au moment où il meurt, avec des modifications, enfin peut-être, mais enfin, Kafka a toujours été présent, et dans ses lettres, et dans sa vie, et dans son œuvre à peu près pareil.
C'est probablement pour ça d'ailleurs que ce livre est si bouleversant.
On
a l'impression que l'histoire qui est racontée est arrivée à quelqu'un qui a trop lu Kafka, presque.
C'est ça. Très bien. Ah, voilà une formule excellente. Oui, c'est l'histoire de... Oui, c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un qui a trop lu Kafka. Oui. Oui. Merci. Non, pas qui se prie pour Kafka.
Non, qui a trop lu Kafka.
C'est ça.
Merci.
Merci. Je vous remercie.
Sobre un autor francés que se llama Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, lo que lo caracteriza es que no pertenece ni propiamente a la filosofía ni propiamente a la literatura, pero precisamente por no pertenecer ni a un género o a una disciplina ni a otra, ese pensamiento ha hecho posible que la filosofía repensara su condición de posibilidad y en particular que la filosofía pudiese tener herramientas para su tarea crítica, para repensar sus límites, digamos. Lo que muestra el pensamiento de Blanchot es que la filosofía necesita su afuera, algo que no es filosófico, para seguir con su tarea y con su ejercicio. Después, otra cosa que es lo que más me interesa es la dimensión política del pensamiento de Blanchot. Blanchot describe en lo que podemos llamar la institución que ha enumerado de vida, que es un cuestionamiento sobre los fundamentos del saber. Y más precisamente, Blanchot se interesa al problema de la estética, es decir, al problema de nuestra relación con el lenguaje. Entender por qué, porque recibimos el lenguaje pero no entendemos qué es lo que explica el lenguaje. Y lo mismo ocurre con el poder. El lenguaje, cuando estructura la realidad, es también lo que nos permite dominar lo real, dominar a los otros, manipular a los otros. Entonces, el lenguaje, cuando es un método de dominación, es el lugar desde donde se inicia el poder. Entonces, lo que hago en mi investigación es, a partir de la experiencia,
tiene que cuando hablamos nos hacemos amos de las cosas. No sabríamos qué hacer con una cosa que no tiene nombre. Las palabras con las que nos referimos a las cosas nos permiten nombrarlas, pero también pensarlas e incluso transformarlas para convertirlas en cosas nuevas con nombres nuevos también. Sin embargo, en el uso de las palabras para nombrar las cosas se asoma una cuestión que normalmente no sometemos a reflexión en nuestra vida diaria, pero que implica un problema si es que lo pensamos alguna vez. Y esto tiene que ver con que las palabras, nos dice Blanchot, suprimen a las cosas que nombran.
L'écriture, ou bien, c'est-à-dire la question de notre relation au langage, et plus précisément, questionner l'écriture, c'est questionner notre expérience du langage.
Si, por ejemplo, yo utilizo la palabra gato para nombrar a una cosa a la que me refiero como gato, entonces para mí el gato será la idea que me forme con esta palabra, será el uso que haga yo de esta palabra todos los días para que decírsela a otros, por ejemplo, y cuando se las diga, ellos se referirán a esta misma palabra que conocen y podrán formar una idea.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le langage se trouve à la fois le problème de la loi et le problème du pouvoir. Le langage réunit, croise ces deux affaires.
Aquí la cuestión es que el gato mismo, el gato en sí, queda ya fuera de este juego del lenguaje. En cuanto empezamos a construir palabras, a usarlas para referirnos a cosas, estas palabras reemplazan a las cosas mismas. Y entonces, en este juego, las cosas a las que originalmente nos referiríamos usando esas palabras van siendo desplazadas, van siendo dejadas a un lado.
Parce que le langage est pour nous ce qui ordonne la réalité, ce qui nous structure nous-mêmes comme individus. Aussi ce qui nous permet d'avancer dans la réalité avant même de la comprendre. En cela, le langage agit comme la loi. Il est la loi. Il nous constitue, mais aussi exactement comme la loi, d'une certaine façon, il nous dépasse. Parce que oui, nous recevons le langage, mais sans vraiment comprendre, capter ce que c'est ni comment ça fonctionne. Il se passe la même chose avec la question du pouvoir. Le langage, lorsqu'il structure la réalité, est ce qui nous permet de dominer le réel, de le classer, l'organiser, le modifier, mais aussi de dominer les autres, de possiblement manipuler les autres. Le langage comme instrument de domination est l'un des principaux lieux depuis lequel s'exerce le pouvoir. L'écriture. Du coup, expérimenter l'écriture,
es, y entonces modificar lo que la palabra puede decir para tratar de lograr que la palabra vuelva a tener una especie de correspondencia con esto que originalmente buscaba y que en el lenguaje ordinario se va perdiendo paulatinamente. El escritor produce obras modificando realidades naturales y humanas. Se convierte en un esclavo vuelto maestro, pues con sus palabras hará el intento de romper con los usos ya establecidos de esas palabras. No se conformará con la idea y el uso que de ellas se da en el lenguaje común, inventará otros usos, romperá con los viejos modos de utilizar la lengua, y por eso el escritor es alguien que, se puede decir, se da a sí mismo su propia ley.
Ne plus être seulement aveuglé à l'intérieur du langage. La pratique de l'écriture est précisément le lieu qui permet de bien regarder, d'étudier, de comprendre et chacune de s'approprier le langage. Et alors, aussi, dans le mouvement, de questionner la loi et le pouvoir dans leur fonctionnement, etc. etc. Et alors, aussi.
La literatura no tendría la finalidad de,
así como Lucernalo, todos los demás lo nombran,
sino acabar consigo mismo.
El escritor lo que estaría buscando hacer es justamente romper con esta significación hueca de las palabras, con esta significación que normalmente ya nunca pensamos en realidad, en el acto de reflexionarla. Lo que él estaría haciendo sería justamente romper este sentido aparentemente unívoco y claro del lenguaje, pero en ese proceso él también tendrá que darse muerte, tendrá que darse destrucción, al menos en la forma en la que él se concibe a sí mismo.
Y entonces, siguiendo estos planteamientos de Blanchot, romper con el lenguaje, con sus usos, significará también romper con este mundo. Este rompimiento entonces con el mundo, mediante el rompimiento con el lenguaje,
descubre la única forma posible.
También podría decir, es un rompimiento con las normas de ese mundo. Cuando esto se lleva a uno de sus momentos más extremos en la literatura, Blanchot nos dice, nos encontramos con la revolución. La revolución es un rompimiento con la vida. La vida entendida como todo eso que hacemos en el mundo, en el acto de romper con las palabras que nos permiten decir el mundo, con las palabras que le dan forma al mundo, el escritor estará rompiendo entonces con ese mundo también. El escritor romperá entonces con la vida, así como podía decirla antes dentro de ese mundo. El acto de romper con esa vida previa es la revolución.